France Inter.
Bonsoir à tous. Des fake news et des mensonges, voilà la parade déconcertante du Premier ministre israélien. Pour défendre son plan de mainmise sur Gaza, il accuse les médias et le Hamas d'affabuler sur la famine et la détresse des Palestiniens et promet que son objectif n'est pas d'occuper l'enclave. Le feu maîtrisé ce soir dans l'Aude après une lutte sans répit des pompiers et alors que la canicule s'intensifie, 12 départements basculent en vigilance rouge demain. Sur la route des vacances, les automobilistes tirent la langue, mais les glaciers, eux, sourient. Leur chiffre d'affaires suivent les mêmes courbes que les températures. Quand les applis rivalisent de trouvailles pour vous garder scotché à votre téléphone, on vous explique dans ce journal ce que sont les Strix, ces notifications anti-déconnexion. Et puis le mystère de Dieu le veut, 40 ans après la disparition en Afrique de l'animateur télé à la célèbre Combi Rouge, les spéculations vont encore bon train sur ce qui lui est vraiment arrivé. La météo, toujours très chaude, Virginie Ilson-Lévy.
Oui, avec un pic de chaleur attendu en ce début de semaine et je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes.
Point complet à la fin de ce journal.
France Inter.
Le Premier ministre israélien persiste et défend son plan de contrôle total de Gaza, discuté en ce moment même par l'ONU réunie en Conseil de sécurité. Dans une conférence de presse tenue tout à l'heure, Benjamin Netanyahou s'est appliqué à démonter méthodiquement, photo à l'appui, les critiques et condamnations à l'égard d'Israël, accusant le Hamas de propager sur la catastrophe humanitaire en cours à Gaza des fake news reprises par la presse internationale. Bonsoir Valérie Krova.
Bonsoir.
En direct de Tel Aviv pour Inter, la prise de parole du dirigeant israélien a surtout tourné autour des supposés mensonges du Hamas et des médias.
Seul, devant un pupitre, un bandeau en arrière-plan sur lequel est écrit « Ouvrez les yeux face aux mensonges du Hamas », le Premier ministre israélien s'est employé à déconstruire une propagande qui serait reprise par les médias étrangers, toujours interdits d'entrer à Gaza par ailleurs. Propagande concernant les livraisons d'aide humanitaire. S'il y a pénurie, c'est le Hamas qui en est responsable parce qu'il pille les camions. Benjamin Netanyahou a néanmoins reconnu que des tonnes de marchandises pourrissaient au point de passage de Kerem Shalom, mais selon lui, c'est parce que les Nations Unies auraient décidé de ne pas procéder aux distributions. En réalité, c'est la Fondation humanitaire de Gaza, cofinancée par Israël et les États-Unis, qui est chargée de la distribution de cette aide. Son action est très décriée pour sa désorganisation qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de Palestiniens tués par les tirs de l'armée israélienne. Propagande ensuite sur la faim qui serait utilisée comme arme de guerre par Israël. Le Premier ministre a montré cette photo publiée en une du New York Times d'un enfant décharné dans les bras de sa mère. Cet enfant souffre en fait d'une maladie génétique. Le New York Times a d'ailleurs publié un démenti. Les seules personnes délibérément affamées à Gaza aujourd'hui, ce sont nos otages, a affirmé Benjamin Netanyahou devant une photo d'Eviatar David tirée d'une vidéo du Hamas où le jeune homme apparaît le visage émacié. Benjamin Netanyahou qui n'a pas jugé bon de rappeler que plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés d'une famine généralisée selon les Nations Unies.
Valérie Krova en direct de Tel Aviv avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Et dans ce contexte qui ne présage rien de bon pour l'avenir des Palestiniens à Gaza, une voix proteste pourtant peu habituée aux prises de position, celle du joueur de foot égyptien, vedette de Liverpool, Mohamed Salah. Il demande un peu de courage à l'instance du football européen après la mort d'un ex-joueur gazaoui, Souleymane Al-Obeid, tué par des tirs d'Israël lors d'une distribution d'aide alimentaire d'après l'association palestinienne de football. Bonsoir Alexis Arad.
Bonsoir.
Ce qui a indigné Mohamed Salah, c'est le silence policé de l'UEFA sur les circonstances du décès du joueur.
Adieu à Souleymane Al-Obeid, un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres. Voilà l'hommage rendu par l'UEFA à celui que l'on surnommait le Pelé palestinien. C'est trop peu au goût de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien de Liverpool s'est empressé de répondre. Pourriez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ? Un message vu plus de 82 millions de fois depuis hier sur les réseaux sociaux. Alors que la star mondiale du foot est réputée discrète sur les sujets politiques, très peu de prise de position, Mohamed Salah avait même menacé de se retirer de sa sélection nationale pour éviter les récupérations politiques en Égypte. Cette fois, il n'a pas hésité à dénoncer le silence de l'UEFA sur les circonstances de la mort de Souleymane Al-Obeid. Et ce n'est pas la première fois que le joueur égyptien utilise sa popularité comme tribune à propos de la situation à Gaza. Dès octobre 2023, il avait avait demandé que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer dans l'enclave, plaidant pour la fin des massacres dans le conflit entre Israël et le Hamas.
Et Mohamed Salah n'est pas le seul à avoir réagi. L'ancien joueur français Eric Cantona s'est lui aussi ému de la mort du footballeur palestinien. Volodymyr Zelensky pourrait-il finalement assister au sommet Trump-Poutine en Alaska ? L'Europe pousse en tout cas en ce sens et c'est ce que laissent entendre aujourd'hui plusieurs médias américains. Par ailleurs, indiquant que la Maison-Blanche réfléchit à inviter le président ukrainien à la table des discussions sur la paix vendredi prochain. En France, la vigilance canicule vire au rouge pour 12 départements du sud-ouest du pays demain et 41 seront en orange sur les deux tiers du territoire. La vague de chaleur se fait de plus en plus oppressante et ceux qui rentrent de leurs vacances depuis le sud ne sont pas mécontents d'échapper à la chape de plomb caniculaire. Vous l'avez constaté, Alexandre Berthaud, sur l'autoroute A10 où roulent vers Paris ceux qui reviennent du sud-ouest.
À Brie-sous-Forges, sur la table de pique-nique de l'aire d'autoroute, on avoisine les 30 degrés, bien moins que dans le Tarn, d'où revient la néerlandaise Anna.
Dans la voiture, on avait 38 degrés hier, très très chaud.
Very, very hot. Demain, les 40 degrés pourraient être dépassés, invivables pour cette mère de deux jeunes enfants.
Mettre de la crème toute la journée, boire énormément d'eau. La vague de chaleur pour les enfants, c'est compliqué. Je suis soulagée d'être partie.
Elle termine en riant parce que considérer la fin des vacances comme un soulagement, c'est un sentiment assez paradoxal et pourtant partagé par Cédric, un Belge.
Si on va dans les pays à haute chaleur, on a envie de trouver la chaleur, mais quand on dépasse les 40 degrés, c'est non raisonnable. Donc, c'est pas ce qu'on recherchait à la base.
Cédric qui continuera pourtant, dit-il, de fréquenter ses destinations habituelles, l'Aveyron, l'Ardèche. Ce n'est pas le cas de Vincent, parisien, qui avec ses amis revient d'un long week-end dans le sud.
40 et plus, ouais, je pense que là on change de programme. On viserait beaucoup moins explorer les terres ou quoi, on resterait vraiment sur les bords des côtes, je pense. Piscine ou plage, quoi.
Changer ses habitudes peut-être, en tout cas en attendant vite reprendre la route en direction de contrées que la vague de chaleur ne devrait pas atteindre, conserver une relative fraîcheur.
Et ces fortes chaleurs, elles font les affaires des glaciers. Forcément, depuis le début de l'été, les marchés des sorbets et crèmes glacées et tobo fixes. Les glaces, Maria Melkurdi, profitent d'une saison estivale excellente.
Oui, elle a même démarré tôt. Pic de chaleur du mois de juin oblige. Les envies de glace sont montées en même temps que les températures. Leurs ventes ont bondi de 10% depuis le début de l'année. L'offre est diversifiée. On en trouve maintenant pour tous les régimes, vegan, bio, faible en calories et bien sûr pour tous les goûts.
Bah, j'adore le café, moi, c'est super le café. Glace au café. Parce que ma grand-mère, elle en achetait souvent à l'époque et c'était des trucs. Non. Que du café.
Moi, j'aime bien les sorbets. C'est moins gras.
Alors, moi, c'est la pistache. Pistache coco.
Il y a des fois des parfums qu'on découvre. Glace à la bière.
La glace à l'hibiscus. Ouais.
L'imagination des glaciers est sans limite et ça plaît. Les glaces au sésame ou encore à l'huile d'olive se font une belle place sur les tables. Elles se consomment aussi à l'apéro en accompagnement d'une entrée. La glace à la moutarde avec un tartare de bœuf, par exemple.
Des consommateurs également encore plus attaché cette année à la manière, Mariam, dont ces glaces sont fabriquées.
Oui, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à cette notion de glace artisanale. Mais attention à cette appellation peu contrôlée. Elle ne garantit pas que la glace est fabriquée avec des fruits frais, par exemple. Pour vous y retrouver, rien de mieux que de vous fier à vos sens, à commencer par le goût. D'autres commerçants ajoutent des ingrédients non négligeables à l'appellation artisanale. Des alliances avec des producteurs de fruits, lait, sucre de betterave 100% locaux, des pots ou cônes glacés souvent appréciés.
Un décryptage glacé signé Maria Melkurdi. Après avoir parcouru au moins 16 000 hectares dans les Corbières, le gigantesque incendie de l'Aude est maîtrisé ce soir. Objectif atteint pour les pompiers qui restent mobilisés et vigilants, d'autant que le risque de nouveaux feux de forêt reste élevé, tout comme dans 24 autres départements de France. En Pologne, la crainte d'un recul drastique sur le droit à l'avortement depuis que le président conservateur Karol Nawrocki a été élu à la tête du pays. Les féministes craignent qu'il ne bloque tout avancé sur le droit à l'IVG, déjà très restreint pour les Polonaises. Adrien Sarla a rencontré à Varsovie des militantes du premier centre d'avortement du pays, très inquiète.
Deux ans après avoir dû traverser la frontière tchèque pour aller avorter, Marta a pris l'élection de Karol Nawrocki comme un coup de massue.
Le lendemain de l'élection, j'avais des impératifs à la fac, mais j'ai tout annulé. J'ai expliqué que je ne pouvais pas sortir de chez moi car je n'arrivais pas à gérer mes émotions.
Comme tout le monde ici, elle sait que le nouveau président opposera son veto à toute tentative de libéraliser l'accès à l'IVG en Pologne ces 5 prochaines années. Et la cofondatrice du centre, Natalia Bruniarczyk, n'est pas optimiste.
On sait que Navrovski est opposé à l'avortement, il le dit lui-même. Alors on est déjà sûr à 100% qu'il n'y aura pas de décriminalisation de l'IVG et qu'il ne sera pas retiré du code pénal. Je pense qu'on doit se préparer au pire, car c'est un président plus proche de l'extrême droite que le précédent.
Mais sa collègue, Emilia, espère que l'arrivée au pouvoir de ce nouveau chef de l'État conservateur permettra au moins d'alerter sur la situation des Polonaises à l'international.
Notre fondation ne reçoit plus de dons et on a perdu beaucoup d'argent, car les ONG et les autres pays pensent qu'on a un gouvernement libéral avec Donald Tusk. Maintenant, on a la confirmation que ce n'est pas le cas et j'espère que ça jouera en notre faveur.
Chaque année, leur collectif aide 47 000 femmes à accéder à l'IVG en Pologne, tandis que le gouvernement ne recense que 800 avortements dans les hôpitaux du pays.
Adrien Sarlat, Varsovie pour Inter.
France Inter, Flore Catala.
Leur unique but est de vous rendre encore plus accro à votre smartphone. Les Strix, un mot anglais qui désigne les notifications que vous recevez parfois sur votre mobile pour vous inciter à vous reconnecter à une application si vous la délaissez plus d'une semaine, plus d'un jour ou même seulement pour quelques heures. Avec une récompense virtuelle à la clé, c'est terriblement efficace pour obliger à être assidu, mais terrible aussi, Claire Chegaglini, pour l'addiction aux écrans.
Laura, 24 ans, étudiante en droit, ignorait ce qu'étaient les Strix et pourtant.
J'en ai même énormément, oui. Ça me sert sur le côté sport à être assidu, me dire que bon là, il faut que je maintienne un certain score, bah, ça me motive, mais l'envers du décor peut créer oui, une addiction.
Et c'est en effet le but de ces Strix qui récompense votre activité ou sanctionne votre absence d'activité. Système qui n'est pas sans conséquences pour les personnes dépendantes aux écrans, comme l'explique Dan Velea, psychiatre et addictologue.
Ici, on analyse le principe de Strix. Donc être en permanence en train d'échanger, ça crée un lien avec les autres usagers qui est très fort. Mais avec les Strix, si tu es absent 24 heures ou peut-être un peu plus, tu perds complètement l'amitié virtuelle. Les gens peuvent se sentir abandonnés avec des moments de détresse psychologique très importants.
Pourtant, il y aurait des moyens de lutter contre ces addictions en amont, comme le note Julien Pillot, économiste à l'INSEC Grande École.
Il serait éthique de la part de ces entreprises qui ont les moyens de détecter ces comportements extrêmement déviants et addictifs, d'envoyer des messages d'alerte, voire de supprimer l'accès à l'application.
Et ces Strix sont d'autant plus efficaces quand ils sont à destination d'un public jeune, car la partie du cerveau qui nous permet de gérer nos émotions ne devient mature qu'aux environs de 25 ans.
Et de 2025 à 1985, retour au temps des écrans cathodiques et au temps d'un choc que les moins de 40 ans n'ont pas connu, celui de la disparition d'un animateur star de la télé française, Philippe de Dieuleveux, figure de l'émission La Chasse au Trésor sur Antenne 2 à l'époque, parti explorer les fleuves d'Afrique en août 1985. Il n'en est jamais revenu, Lou Bourdi.
Un accident, une bavure ou une histoire d'espionnage. Plusieurs hypothèses se sont enchaînées. Philippe de Dieuleveux, en 1985, c'est l'aventurier star de l'émission La Chasse au Trésor. Combinaison rouge dans l'hélicoptère.
Retrouvez Philippe quelque part sur l'île de La Réunion, Philippe.
Mais la même année, il se lance dans une toute nouvelle aventure. Traverser l'Afrique d'est en ouest en passant par les fleuves. Le 6 août, il se lance alors avec ses coéquipiers dans celui du Zaïre et son barrage d'Inga, très dangereux. 48 heures plus tard, l'annonce tombe.
Bonjour, notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes.
Les autorités concluent alors à une noyade accidentelle. Mais une équipe d'Antenne 2 est envoyée sur place et ouvre la voie à une autre hypothèse.
Il se pourrait que les membres de l'expédition aient été victimes d'une bavure. Dans cette région, les Aérois vivent dans la psychose d'une invasion de Kadhafi et ils ont l'ordre de tirer à vue sur toute personne suspecte.
Et puis 9 ans plus tard, nouveau rebondissement, nouvelle piste. Un frère de Philippe de Dieuleveux assure qu'en plus de la télévision, l'animateur travaillait pour la DGSE, les services secrets français. 40 ans plus tard, son corps n'a toujours pas été retrouvé.
À l'heure des grands chassés croisés de l'été, certains gendarmes laissent de côté les radars automobiles pour surveiller plutôt les vélos. Exemple, en Charente-Maritime, tout près de l'île d'Oléron, au Mat et à Ronces-les-Bains, 9000 passages de vélos par jour sur les pistes, où Paul-Adrien Sicard a suivi plusieurs contrôles.
Les écouteurs, c'est interdit, monsieur ? Je ne sais pas si il me l'a dit, mon collègue.
Ah non, pas du tout.
Il est à peine 10h au Mat et une dizaine de gendarmes attendent déjà sur la piste cyclable en direction du phare de la Coubre. Ce matin, ils sensibilisent et ne sanctionnent pas, même si les règles de sécurité à vélo ne sont pas toujours respectées. Sébastien est en vacances et s'est fait réprimander par les agents sur place, mais il le prend avec le sourire.
J'ai mon enfant de 8 ans qui est sur son vélo sans casque et ils ont raison. Il faut respecter la règle et donc il est retourné aller chercher le casque à la maison. Mais c'est une bonne chose qui nous ait sensibilisés, qui nous ait rappelé la règle.
Est-ce que le vélo a un numéro de série ?
Oui, mais alors...
En fin de matinée, direction Ronces-les-Bains sur un autre contrôle, toujours à but préventif, mais cette fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vélos volés en circulation, explique le major Bruno Vissac. Il commande la brigade territoriale de la Tremblade.
Nous sommes en contrôle pour sensibiliser les cyclistes sur les vols de vélos et leur rappeler quand même que le seul moyen de pouvoir les identifier, c'est la gravure. Alors c'est obligatoire depuis 2021 sur les vélos neufs, c'est fortement conseillé sur les vélos d'occasion. On leur rappelle effectivement que s'ils sont propriétaires d'un vélo et qu'ils le font voler, le seul moyen nous de pouvoir les retrouver, les identifier et le redonner au propriétaire, c'est la gravure.
L'an dernier, rien que sur la période estivale, une centaine de vélos ont été volés entre la commune des Mattes et celle de Ronces-les-Bains.
Un reportage Paul-Adrien Sicard, ici La Rochelle pour Inter. La météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonsoir Virginie Ilson-Lévy.
Bonsoir à tous.
Les très fortes chaleurs se maintiennent ce lundi.
Oui, l'épisode de canicule se poursuit. La nuit prochaine, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 22 à 25 degrés sur le sud-ouest et en bord de Méditerranée. Ailleurs, il affichera 15 à 20 degrés. Quant aux températures maximales, elles seront en hausse au nord avec 30 à 36 degrés. Un peu moins chaud en bord de Manche grâce au vent notamment. Et elles seront toujours étouffantes plus au sud avec 36 à 39 degrés.
Avec des pointes encore à 40 degrés.
Oui, les températures pourraient même grimper jusqu'à 40 voire 42 degrés en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest. Des records de température mensuelle pourraient être battus. La journée la plus chaude de l'épisode caniculaire, ce sera donc ce lundi. Côté ciel, quelques averses localement orageuses en matinée en Bretagne et en Pays de Loire. Et l'après-midi seulement sur le relief alpin en Corse et du côté des Pyrénées.
Merci Virginie. Elle sonne les villes.